Très bien. Ben, merci pour l'invitation et pour la présentation. Donc, ma thèse porte sur l'enseignement des faits religieux à l'école élémentaire publique. Je l'ai réalisée à l'école pratique des hautes études sous la direction de Philippe Portier et la co-direction de Séverine Mathieu, qui est professeure de sociologie des religions à l'école pratique des hautes études. J'ai fait ma thèse en collaboration avec l'association Enquête, grâce à un financement de la région Île-de-France, un dispositif de subvention qui s'appelle Partenariat Institutions Citoyens pour la Recherche et l'Innovation, avec un petit acronyme PICRI, plus facile à retenir. Et j'ai soutenu ma thèse le 20 décembre dernier, juste à côté d'ailleurs à la Fondation des Maisons des Sciences de l'Homme. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que l'enseignement des faits religieux est un sujet à la croisée de questionnements qui relèvent de la recherche fondamentale, d'où je venais par mes études, et de l'action politique. Donc j'avais aussi envie d'un engagement citoyen. Alors c'est aussi un sujet qui se déploie dans le cadre d'une réflexion plus générale sur la laïcité. Moi j'ai fait mes études à l'école pratique des hautes études avec Philippe Portier et déjà mon mémoire sur le traitement de la laïcité dans les sciences sociales, donc comment la laïcité était abordée selon la discipline des chercheurs qui travaillaient dessus. Et là il s'agissait d'établir, donc dans le cadre de ma thèse avec Enquête, un état des lieux de l'enseignement des faits religieux à l'école publique. Et pour ce faire, j'ai observé et analysé des pratiques enseignante prenant en charge cet enseignement à l'école élémentaire. Tout au long de mon enquête de terrain, il est apparu que la laïcité scolaire était appréhendée par les acteurs de l'éducation nationale non plus uniquement comme un cadre juridique et éducatif, mais aussi comme un objet transversal d'éducation. Les professeurs dont j'ai observé les pratiques ont tous mis en place un enseignement des faits religieux dans la perspective d'éduquer leurs élèves à la laïcité. Ce travail de recherche m'a permis de déployer la thèse suivante, qui est la thèse principale de mon travail, qui est que l'éducation à la laïcité constitue la finalité principale de l'enseignement des faits religieux, et que c'est parce que cet enseignement des faits religieux est un moyen privilégié pour éduquer à la laïcité que son inscription comme enseignement transversal dans les programmes scolaires est justifiée. Alors, la question de l'enseignement des faits religieux n'est pas nouvelle. Depuis 30 ans, de nombreux universitaires et acteurs de l'éducation nationale y travaillent. Les réflexions contenues dans mon travail de thèse s'inscrivent dans la lignée des analyses proposées par des travaux en sciences sociales des religions et de la laïcité. Je pense notamment aux travaux du laboratoire que Philippe Portier a dirigé jusqu'à cette année, qui s'appelle le groupe Société, Religion et Laïcité. Les travaux aussi des chercheurs de l'École pratique des hautes études et de l'Institut européen en sciences des religions, qui est un institut qui a été créé suite au rapport de Régis Debray en 2002 au sein de l'École pratique des hautes études. Néanmoins, les recherches portées par ces différentes structures sur l'enseignement des faits religieux portaient toutes sur l'enseignement secondaire. Donc ma thèse s'inscrit dans cet héritage, mais pour y apporter une contribution par le choix d'un terrain vierge de recherche universitaire, le terrain de l'école élémentaire. Alors, en proposant une étude de la place des faits religieux dans les discours des politiques et dans les prescriptions officielles concernant le niveau élémentaire, elle complète les recherches universitaires consacrées à l'enseignement des faits religieux dans le secondaire. Et elle apporte de nouveaux éléments d'analyse sur l'histoire contemporaine de cette politique publique. Évidemment, le choix du terrain de l'école élémentaire s'y construit en cohérence avec les réflexions menées par le partenaire de ma thèse, c'est-à-dire Enquête, et issues de son expérience pédagogique, qui a globalement permis d'observer que les enfants, en particulier entre le CE2 et la 6e, se posent de nombreuses questions au sujet du religieux dans leur environnement, qu'ils sont sensibles à ces thématiques et qu'il y a chez eux une curiosité dégagée des contingences adolescentes. Par ailleurs, les enfants, à partir du CE2, disposent d'une capacité à conceptualiser, qui est aisément mobilisable, pour leur permettre d'appréhender ces thématiques complexes, ce qui est plus difficile avec des plus petits, mais possible quand même. Le choix du terrain résulte donc de la conviction que moi, chercheuse, je partage avec Enquête, que l'enseignement des faits religieux est nécessaire et pertinent dès l'école élémentaire, d'autant plus que la polyvalence des professeurs des écoles constitue un atout pour mettre en œuvre un enseignement interdisciplinaire. Ma recherche s'est déroulée de 2013 à 2018, durant une période charnière, un changement de majorité politique, la création des écoles supérieures du professorat de l'éducation, autrement appelé ESPE et anciennement les IUFM, la loi pour la refondation de l'école, la promulgation de l'enseignement moral et civique et de nouveaux programmes pour l'école élémentaire. Et cette période a bien sûr été marquée par les attentats qui ont touché la France en 2015 et qui ont donné lieu à la grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République. Ma thèse se fonde sur la pluralité des techniques d'enquête, une enquête qualitative complétée par une enquête quantitative. Elle se concentre sur les représentations et les pratiques des acteurs de terrain, professeurs des écoles, conseiller pédagogique et inspecteur de l'éducation nationale, afin d'être en mesure de faire état des difficultés rencontrées par l'éducation nationale dans la mise en œuvre de cette politique publique à l'école élémentaire. Concrètement, elle a reposé sur une quarantaine d'entretiens réalisés tout au long de ma recherche, des observations dans 8 classes de 7 écoles parisiennes, des observations de longue durée en général, ainsi que des observations de stages de formation des professeurs. Et elle s'est aussi nourrie de l'analyse des données brutes d'un sondage réalisé auprès de 345 professeurs des écoles. Alors, quelles sont les principales conclusions de ce travail ? Donc, ma première partie consacrée à la genèse et aux évolutions de l'enseignement des faits religieux à l'école élémentaire met en évidence que depuis une trentaine d'années, les acteurs politiques et institutionnels se montrent globalement favorables à un enseignement laïque et interdisciplinaire des faits religieux. L'élaboration de cette politique publique prend véritablement corps à la fin des années 1980 et cet enseignement est inscrit dans les prescriptions officielles en 2006 via le socle commun. Cette évolution ne s'est pas faite sans critiques, réticences et tensions sociales. Certains chercheurs, décideurs politiques et professeurs voient dans l'enseignement des faits religieux un projet de reconfessionnalisation de l'école et le terreau de revendications identitaires et d'exigences particularistes, contraires au projet d'émancipation de l'école républicaine. Les acteurs hostiles à l'enseignement des faits religieux considèrent cet enseignement comme illégitime ou non pertinent. Certains estiment qu'il n'est pas possible de parler de manière laïque des religions. Ils utilisent d'ailleurs de manière indifférenciée les expressions « enseignement des religions » et « enseignement des faits religieux ». Ils associent souvent les religions à l'obscurantisme et au conflit, et uniquement à ça. D'autres acteurs considèrent qu'il est possible de parler de manière laïque des religions, mais que ce n'est pas souhaitable. Cet enseignement des faits religieux irait donc à l'encontre du mouvement impulsé à la fin du XIXe siècle qui entraîne la laïcisation des personnels enseignants et des contenus d'enseignement, couplé à la relégation du religieux, des religions pardon, dans la sphère privée. Pour eux, les religions n'ont pas leur place à l'école, ni au travers des témoignages d'élèves, ni comme objet d'enseignement laïque. D'autres acteurs y sont favorables, mais ne s'accordent pas sur sa finalité prioritaire et lui associent donc des légitimations différentes. Certains acteurs, et c'est la tendance qui a prévalu lors des premières années de l'élaboration de cet enseignement, lui associent une finalité exclusivement patrimoniale. Il reviendrait à l'école de transmettre des connaissances sur les religions et les convictions pour permettre aux enfants d'accéder à un patrimoine culturel empreint de religieux, comme à la compréhension de nombreux phénomènes sociaux. D'autres considèrent que cette finalité patrimoniale ne répond pas à une urgence ou à une priorité politique ou sociale. Ils le justifient alors différemment. Ils conçoivent l'enseignement des faits religieux comme une composante de l'éducation à la laïcité, dans la mesure où il constituerait un moyen de permettre aux élèves de prendre conscience de la pluralité des convictions et d'adhérer par-delà la diversité de leurs convictions à la laïcité comme moyen d'assurer ce pluralisme et d'exercer leur liberté de conscience. Depuis les années 2000, la finalité citoyenne de l'enseignement des faits religieux ne cesse de s'affirmer et de s'affiner dans les discours de certains acteurs politiques, d'intellectuels et de corps intermédiaires de l'éducation nationale. Pourtant, une indétermination demeure dans les prescriptions officielles concernant à la fois l'articulation possible de cet enseignement des faits religieux à l'éducation à la laïcité, sa place à l'école élémentaire et enfin concernant la traduction pédagogique de sa nature interdisciplinaire dans des programmes scolaires conçus de manière disciplinaire. Donc, un sondage réalisé en janvier 2016 auprès de 345 professeurs des écoles, qu'on a réalisé en partenariat avec notamment un think tank qui s'appelle Vers le Haut, mais aussi avec Bayard. Donc dans ce sondage, a mis en évidence que si une majorité des sondés, 59%, est favorable à l'enseignement des faits religieux, une minorité seulement le met en œuvre, 39%. Cet écart entre intention et passage à l'acte s'explique par la nature socialement vive de ce sujet, le manque de connaissances, de formation et d'outils pédagogiques. Néanmoins, suite aux attentats de novembre 2015, on assiste à une prise de conscience de l'urgence de s'emparer de ces questions qui s'est traduite par une accélération du tournant pédagogique opéré par l'éducation nationale. C'est ainsi que se déploie une pédagogie de la laïcité au sein de laquelle l'enseignement des faits religieux apparaît de plus en plus comme étant subordonné à l'éducation à la laïcité. La période couverte par ma recherche, 2013-2018, est importante car l'institution scolaire s'engage alors dans l'élaboration de parcours de formation et d'outils pédagogiques, notamment pour l'école élémentaire. Pour réaliser une analyse critique des pratiques des enseignants que j'ai observées, il a fallu tenter de définir un modèle d'enseignement laïque des faits religieux au regard de la définition juridique de la laïcité scolaire, et des données récoltées lors de cette recherche. Cette formalisation permettait de situer les pratiques des professeurs au regard de ce modèle. J'ai donc élaboré ce modèle à partir du croisement d'une part des objectifs de l'enseignement des faits religieux présentés dans les précédents travaux universitaires, dans les discours politiques et dans les prescriptions institutionnelles, et d'autre part des finalités associées par les professeurs qui prennent en charge cet enseignement. Les trois finalités principales de l'enseignement des faits religieux semblent donc être, d'abord, d'apprendre aux élèves qu'il existe une pluralité de convictions et une diversité interne à chacune d'elles. Ensuite, d'amener les élèves à comprendre que les convictions sont un domaine sur lequel les individus peuvent être en désaccord, contrairement aux connaissances scientifiquement établies. Ainsi, les élèves peuvent déduire de la diversité des convictions l'utilité concrète de la laïcité à deux échelles. À l'échelle individuelle, permettre à chaque personne de déterminer le plus librement possible sa conviction, religieuse, athée ou agnostique, et sa façon de la vivre, dans le respect des lois républicaines. Et à l'échelle sociétale, permettre à des individus de différentes convictions de vivre ensemble par le respect de la liberté de conscience de chacun. Enfin, troisième objectif, de favoriser le développement de l'esprit critique des élèves pour qu'ils soient en mesure d'exercer leur liberté de conscience. Les professeurs que j'ai rencontrés ont en commun d'enseigner les faits religieux dans une perspective citoyenne et de porter au sein de cet enseignement une attention particulière au traitement de l'islam. Ils opèrent des bricolages pédagogiques rendus nécessaires par la rareté des outils, leur manque de formation et l'absence de préconisations institutionnelles quant aux savoirs intermédiaires, c'est-à-dire manuels et outils pédagogiques, adéquats. Dans ma thèse, je présente notamment trois monographies de quatre classes pour rentrer vraiment dans le détail des pratiques. Donc le premier enseignant a mis en œuvre l'arbre à défis, qui est un outil développé par Enquête, destiné aux enseignants de cycle 3, CM1, CM2, 6e. Le deuxième a bricolé sa pratique à partir d'une série de quatre vidéos de l'émission télévisée C'est pas sorcier, la série s'appelant Un dieu, trois religions, et après il y a le judaïsme, le christianisme, l'islam. Et le dernier enseignant s'est appuyé sur l'ouvrage Les récits de création, développé par l'Institut européen en sciences des religions et le ministère de l'Éducation nationale, et qui a été publié à la Documentation française en 2009. Donc, ce constat pourrait laisser penser qu'il existe autant de manières d'enseigner les faits religieux que de professeurs qui s'en emparent. Néanmoins, il apparaît au terme de ma thèse que par-delà la grande diversité des bricolages pédagogiques observés, les trois cas développés sont représentatifs d'orientations partagées par les autres professeurs dont les pratiques ont été observées dans le cadre de ma thèse. Concernant à la fois les trois finalités que j'évoquais juste avant, mais aussi le fait qu'ils ont tous recours à des outils clés en main ou le plus clés en main possible. Alors, eu égard au modèle d'enseignement laïque des faits religieux que j'ai proposé tout à l'heure, quatre difficultés principales d'ordre axiologique et praxéologique, donc sur les valeurs et les pratiques, ont été repérées. Le premier écueil relevé est lié au respect de l'obligation de neutralité des professeurs, à leur difficulté à se représenter la pertinence pédagogique de cette neutralité et à la transposer dans leur enseignement. Premier exemple, je cite un enseignant, « Je dis à mes élèves que je suis croyant, comme ça ils savent que j'ai des connaissances sur les religions. » Ici, l'enseignant se prive de transmettre aux élèves l'idée qu'il est possible de disposer de connaissances sur les religions, les convictions, sans être croyant, et que le discours croyant sur les religions n'est pas le seul légitime. Deuxième exemple, je cite, toujours un enseignant, on est dans une classe de CM2. « Dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, il existe différentes façons d'honorer Dieu. Mais est-ce très important ces gestes ? Non, le plus important, c'est d'être convaincu que Dieu existe et d'être sincère quand on a envie d'honorer son Dieu. » Ici, l'enseignant ne réalise pas qu'il ne se situe plus dans un enseignement laïque des faits religieux, mais bien dans un propos normatif d'ordre religieux. Il opère notamment une hiérarchisation entre croyances et pratiques religieuses qui constitue un manquement à son obligation de neutralité et qui ne préserve pas la nature laïque de l'enseignement des faits religieux. Un deuxième écueil important consiste en la non-systématisation de la distinction entre savoir d'une part et témoignage et croyance d'autre part. Celui-ci s'incarne dans une assignation souvent inconsciente par les enseignants des élèves à une conviction. Ainsi, il arrive aux enseignants d'ériger les élèves en experts de leur religion, réelle ou supposée, faisant de ces derniers les détenteurs du savoir. Ces difficultés prennent aussi la forme d'un manque d'attention porté au choix d'un vocabulaire précis et à l'emploi de précautions de langage, pourtant centrales dans cet enseignement sensible, comme des modalisateurs ou encore le conditionnel. Premier exemple, je cite toujours un enseignant, toujours dans une classe de CM2, « Puisque Matthieu est chrétien, il va nous dire en quoi consiste le baptême. » Ce faisant, l'enseignant sous-entend que le témoignage de Mathieu constitue un savoir objectif sur la pratique du baptême, lorsqu'il s'agit en fait d'un témoignage subjectif, lié à son expérience personnelle et familiale. En outre, il fait part à tous les élèves du fait que Mathieu est chrétien, alors que cet élève ne souhaitait peut-être pas le faire savoir. D'autre part, l'enseignant induit que les autres élèves, quelles que soient leurs convictions, ne pourraient pas répondre à la question. Deuxième exemple, Mohamed a reçu la révélation du Coran. Par ce propos, l'enseignant présente un énoncé relevant des croyances propres aux musulmans comme une vérité générale, laissant entendre que tout le monde adhère à cet énoncé. Il transgresse ce faisant son obligation de neutralité, ce qui peut être évité dans le cadre d'un enseignement laïque des faits religieux par l'usage de précautions de langage telles que « selon les croyances des musulmans, Mohamed a reçu la révélation du Coran » ou « Mohamed aurait reçu la révélation du Coran ». Ma préférence va à la première, on va en parler plus dans le détail après. Troisième point tient à la difficulté des enseignants à sélectionner puis à hiérarchiser les savoirs à transmettre. Ils cherchent souvent à donner des connaissances détaillées plutôt qu'à faire apparaître des grandes lignes de diversité. Par exemple, un enseignant explique aux élèves en quoi consiste le baptême chrétien avant de leur exposer la croyance commune aux chrétiens selon laquelle Jésus est mort puis ressuscité. Enfin, il faut souligner le risque d'une approche possiblement édulcorée qui passerait sous silence les rapports de concurrence et de contradiction entre différentes convictions. Par exemple, la première émission « C'est pas sorcier » de la série en 4 épisodes sur le judaïsme, le christianisme et l'islam s'intitule « Un dieu, 2 points, 3 religions, point ». Lors d'une observation en classe, l'enseignant interroge ses élèves pour savoir s'il s'agit du même dieu. Outre le fait qu'il ne se situe plus là dans un enseignement laïque, mais dans un questionnement d'ordre religieux, cet enseignant entend mettre en évidence uniquement les croyances et personnages communs à ces 3 religions, un dieu, unique, Abraham, Moïse, etc., sans évoquer ni les éléments qui les distinguent, ni leur conflictualité historique. Ces difficultés sont donc en partie liées à la qualité des outils mobilisés, dont certains présentent eux-mêmes les écueils évoqués, en particulier la série d'émissions « C'est pas sorcier » sur les 3 religions monothéistes, ce qui s'explique notamment par le fait qu'elle n'a pas été conçue pour le champ scolaire. Il faut savoir que c'est très utilisé en classe. Nonobstant, ces professeurs sont parvenus à atteindre les finalités qu'ils s'étaient fixées. Tous ont réussi à mettre en pratique l'interdisciplinarité de cet enseignement. Ils ont pris en charge l'enseignement de questions sensibles, nécessitant qu'ils se départissent de la forme scolaire traditionnelle, qu'ils mobilisent des savoirs intermédiaires, manuels, outils pédagogiques, idoines, qu'ils déploient une ingénierie pédagogique ou qu'ils aient recours à l'expérimentation et à l'invention de dispositifs pédagogiques que j'ai qualifiés dans ma thèse de « bricolage empirique ». Leurs élèves ont acquis des connaissances élémentaires, contribuant à l'appréhension de la place et du rôle du religieux dans le monde contemporain, une intelligibilité culturelle et historique du patrimoine mondial, la déconstruction de confusions courantes et de stéréotypes, un apprentissage de la diversité des convictions, des croyances et des pratiques religieuses actuelles, et la compréhension de l'utilité concrète de la laïcité. Leur pratique pédagogique atteste qu'il est possible d'enseigner les faits religieux pour éduquer à la laïcité, mais qu'il est nécessaire d'accompagner les enseignants pour soutenir et améliorer leurs pratiques. C'est pour tenter de répondre à ces besoins qu'Enquête a été créée en 2010. Je consacre la 3e partie de ma thèse à une socio-histoire de l'association. Vous l'aurez compris, mais je le redis, du coup, l'objectif d'Enquête est de contribuer d'une part à réduire l'écart existant entre les intentions institutionnelles favorables à l'enseignement des faits religieux et les pratiques des professeurs, et d'autre part, de promouvoir cet enseignement auprès des acteurs politiques et institutionnels. Au cours de son développement, l'association Enquête a noué des relations avec les pouvoirs publics, avec plus ou moins de difficultés, ce que je raconte dans la 3e partie de ma thèse. L'association a progressivement gagné leur reconnaissance, ce dont atteste entre autres l'agrément du ministère de l'Éducation nationale dont Enquête bénéficie depuis 2015 et le fait qu'elle soit lauréate du programme présidentiel La France s'engage en 2015 aussi, et que ses sources de financement sont majoritairement publiques. Enquête entretient des liens importants avec la recherche scientifique, notamment avec mon travail de thèse, mais pas uniquement. Et ce travail de thèse a eu pour effet d'affiner ses objectifs et a permis à Enquête de s'engager dans un processus de simplification et de transposition des savoirs savants, c'est-à-dire des savoirs universitaires, en savoirs scolaires, au travers d'outils pédagogiques et d'offres de formation ad hoc. Voilà. Si les pouvoirs publics à tous les niveaux de l'éducation nationale réfléchissent et esquissent des intentions en faveur de l'enseignement des faits religieux, il n'existe pas de vade-mecum, de guide, sur les pratiques pédagogiques pour le mettre en œuvre, alors même que c'est bien la transposition didactique de ces questions socialement vives qui constitue un enjeu prioritaire pour les professeurs de l'école élémentaire. Voilà, c'est pourquoi Enquête se donne pour objectif de s'inscrire dans le dispositif institutionnel et cherche à décliner ses intentions institutionnelles pour éduquer à la, enfin, relatives à l'enseignement des faits religieux pour éduquer à la laïcité en propositions pédagogiques. Je le cite comme ça, mais on a notamment développé deux outils pour l'école élémentaire, l'arbre à défi qui est là, et le pack numérique éducatif Vincelo, laïcité et faits religieux, qu'on a fait en collaboration avec notamment l'éducation nationale, mais aussi la société de production Tralalaire. Voilà.